Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média, au menu Média et Culture au sens large, très large. Tiens, aujourd'hui par exemple, l'histoire du rock, mais vue par les procès et par les tribunaux. Ce sera en deuxième heure, aux alentours de 10h30. Il y aura aussi Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait d'avant célébrité et le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, Marc-Antoine Lebray en fin d'émission, et d'abord dans quelques instants, le journal des médias et les audiences de Louise Bernard. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct, et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie de l'émission qui vous manque sur europe1.fr. Notre infomédia va se pencher sur les relations houleuses entre le grand quotidien La Voix du Nord et le Rassemblement National dans la ville d'Hénin-Beaumont qu'il détient. La municipalité multiplie depuis 7 ans les droits de réponse dans les colonnes du quotidien et le centième a été symboliquement atteint la semaine dernière. On a joint la mairie d'Hénin-Beaumont et on reçoit le directeur général délégué de La Voix du Nord. Et puis nos invités, l'animatrice Faustine Bollard, qui présente déjà 2 émissions sur le service public, dont ça commence aujourd'hui, et qui en annonce 2 nouvelles et qui lance en plus un magazine papier en kiosque. Ça s'appelle Entre nous. Entre nous, elle nous dira comment elle fait. Et puis enfin, une icône dans la partie culture, Sylvie Vartan. Elle sort un album solo, le premier depuis 2010, et repart pour une tournée en France, tournée intimiste et acoustique avec le pianiste de Barbara. Rien que ça. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
Le lancement de 3 chaînes locales BFM, une nouvelle émission politique en 2022, le casting de la saison 2 du jeu LOL qui ressort, et puis YouTube qui suspend le compte du président brésilien et Twitter qui favorise les publications de droite.
Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont encore une fois regardé le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je ne peux pas vous dire combien de fois ce film a été diffusé à la télé. Je crois que c'est à peu près tous les 2 ans. Et encore 5 310 000 téléspectateurs hier soir. 25,3% de part d'audience. En même temps, c'est un film qui fait du bien, il faut le dire. En face, M6 résiste bien avec L'amour est dans le pré. 4 020 000 téléspectateurs hier soir. 17,6% de part d'audience. Et puis, troisième, France 2 avec le téléfilm L'ami qui n'existe pas. Téléfilm inédit qui a attiré 3 220 000 téléspectateurs, 14,7% de part d'audience.
Et puis ça correspondait à une grosse campagne marketing puisqu'il y avait la sortie cette semaine du nouvel Astérix. Astérix et le Griffon.
Exactement.
Culture Média.
On commence ce journal avec le lancement de 3 nouvelles chaînes locales par BFM.
BFM Marseille-Provence, BFM Nice-Côte d'Azur et BFM Toulon-Var. En fait, c'est la deuxième phase d'implantation de BFM dans le Sud car il existe déjà une chaîne régionale lancée en juillet dernier. Elle se transforme, cette chaîne, à partir d'aujourd'hui en 3 déclinaisons locales. Écoutez Hervé Bérou, le directeur général délégué d'Altis Média.
3 chaînes qui vont fonctionner dès aujourd'hui selon le modèle classique des chaînes locales BFM, c'est-à-dire de l'info 100% locale, des services, la météo, la circulation, la qualité de l'air par exemple, et puis de la proximité sur tout ce qui fait la vie quotidienne des citoyens des zones concernées, le sport, la culture, les loisirs, etc. etc.
On a des chaînes qui auront leur propre programme et présentatrices en matinée et en soirée. Le lancement de la locale de Marseille, c'est aujourd'hui à 17h. Celle de Toulon et Nice, ce sera demain. Côté moyens déployés, 20aine de journalistes va travailler à Marseille, autant à Nice et un petit peu moins à Toulon. En tout, c'est une grosse 50aine de journalistes qui va travailler dans ces locales. Des moyens qui pourront aussi bénéficier à la chaîne nationale BFM TV et puis inversement.
Si j'ose dire, tout le monde travaille pour tout le monde. Ce qui est produit chaque jour par nos chaînes locales, eh bien tout ça est utilisé par BFM TV. On utilise des sujets tournés en région, donc plus rapidement, évidemment, qu'on peut les voir depuis Paris, où on se retrouve souvent à aller tourner à J+1, J+2. Ben là, les sujets ils sont tournés plus vite, on peut être plus réactif et plus puissant. Et puis, inversement, ben évidemment, quand BFM TV est sur le terrain, dans une zone qui colle avec une de nos chaînes locales, évidemment, BFM TV donne aussi un coup de main à notre chaîne locale. Quand il y a une grosse actualité, c'est un cercle vertueux.
Hervé Bérou, qui travaille sur le lancement de 2 nouvelles locales en 2022, une à l'est et l'autre à l'ouest, et je n'ai pas réussi à lui arracher le nom des villes.
L'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, va lancer une émission politique en 2022.
Oui, émission qui sera retrouvée sur son site. Un format inédit qui confrontera les candidats à de nombreuses archives en lien avec leurs propositions ou leur parcours personnel. C'est ce qu'annonce Laurent Vallet, le président de l'INA, au Figaro. L'émission, elle sera animée par un journaliste politique dont l'identité n'a pas encore été dévoilée. Avec une précision, pas question de verser dans l'anecdote, mais il s'agit d'apporter un éclairage différent. Il y aura de la matière. Hein. L'INA détient le plus gros catalogue de contenu audiovisuel numérisé au monde. 22 millions d'heures d'images et de sons.
On en sait plus sur la nouvelle saison du jeu LOL qui ressort, jeu d'Amazon Prime Video.
Oui, petit rappel des règles.
Pendant 6 heures, 10 comédiens et humoristes vont devoir se surpasser pour faire rire une audience qui n'a qu'un seul but, ne pas rire.
Quand je suis rentré dans la pièce, l'interrupteur du rire, je l'ai éteint.
Vous êtes ce qu'on fait de mieux dans la comédie en France. En tout cas, c'est ce que disent vos agents.
Première saison très réussie et la plateforme vient de dévoiler le nouveau casting, celui de la saison 2. Très prometteur là aussi. Hein. Eric et Ramzy, Mela Bédia, la sœur de Ramzy, Gérard Darmon, Alice David, Audrey Fleurot, Camille Lelouch, Panayotis Pasco, l'influenceur Jess Riad et Ahmed Silla. Et pour animer ce comédie show, l'acteur et humoriste Philippe Lachaud, comme l'an dernier, qui ne sera pas seul pour cette nouvelle édition, mais avec Alexandra Lamy, gagnante de la première saison.
Twitter met davantage en avant les publications politiques de droite.
Oui, c'est le résultat d'une étude dévoilée par le réseau social lui-même. Faire preuve de transparence autour d'un algorithme, c'est suffisamment rare pour être souligné. Sur Twitter, en fait, vous pouvez choisir de voir apparaître les tweets soit par ordre chronologique, soit en suivant l'algorithme de recommandation qui est censé mieux correspondre aux publications qui peuvent vous intéresser. Et c'est bien de cet algorithme dont il est question dans l'étude. Sur 6 des 7 pays étudiés, les publications qui viennent de comptes assimilés à droite, c'est-à-dire politiques ou médias, sont davantage mises en avant. La seule exception, c'est l'Allemagne. Et c'est bien le cas en France. Ce sont les publications du parti Les Républicains qui apparaissent le plus souvent sur la page d'accueil des utilisateurs de Twitter, suivent de près celles du Modem, puis de La République en Marche. Twitter, en revanche, ne fournit pas d'explications et va donc poursuivre ses recherches pour comprendre le comportement de son algorithme.
De son propre algorithme.
Exactement.
YouTube suspend la chaîne du président brésilien Jair Bolsonaro pendant une semaine.
Pour cause de désinformation médicale, dans une vidéo en direct, il avait mentionné de fausses informations, l'existence d'un soi-disant lien entre les vaccins et le développement du sida. Un lien établi, disait-il, dans des rapports officiels du gouvernement britannique, démenti catégorique de celui-ci et des scientifiques. La vidéo a donc été supprimée par YouTube. Et puis la plateforme a décidé d'aller plus loin, conformément à son règlement, parce que c'est la deuxième fois que le président brésilien enfreint les règles de cette plateforme. Son compte est donc suspendu pour les 7 prochains jours. Alors ces vidéos qui sont déjà en ligne, pas celles avec de la désinformation, resteront accessibles pour le public. Mais Jair Bolsonaro ne pourra ni en publier de nouvelles, ni faire de direct.
Et on termine ce journal des médias avec une actualité série. Tahar Rahim poursuit sa carrière internationale.
Oui, l'acteur français sera au casting de la nouvelle série d'Apple TV baptisée Extrapolations. Série au casting prestigieux. Il jouera aux côtés de Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Jon Snow dans Game of Thrones et puis David Schwimmer, Ross dans Friends, entre autres. Une fiction en 8 épisodes autour du réchauffement climatique et des changements technologiques, leur influence sur les relations amoureuses, la religion, le travail, la famille, d'après la plateforme Apple TV. Et puis comme réalisateur Scott Burns, le scénariste du film Contagion notamment, Tahar Rahim, qui poursuit donc son ascension sur la scène internationale après le succès de la série Netflix Le Serpent et du film Désigné coupable qui lui a valu d'être nommé au Golden Globes et au BAFTA. Et en plus de cette nouvelle série Extrapolations, il sera bientôt à l'affiche d'une comédie romantique face à Anna Taouet, pas mal non plus, hein. She Came To Me.
Quel succès! Merci beaucoup, Louise Bernard. Pour vous aussi, toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour. On va parler des relations houleuses, le mot est faible, entre le quotidien La Voix du Nord et la mairie Rassemblement National d'Hénin-Beaumont. La municipalité multiplie depuis 7 ans les droits de réponse dans les colonnes du journal. Le 100e droit de réponse a été symboliquement déposé la semaine dernière. On en parle avec le directeur général délégué de La Voix du Nord, c'est Gabriel Darcourt. On entendra aussi la voix du Rassemblement National. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Alors que les projecteurs sont braqués sur la présidentielle, la politique locale continue évidemment de faire vivre le quotidien des citoyens, le maire restant l'élu préféré des Français. Les médias locaux tentent de couvrir cette actualité politique locale, et ils ont bien raison, et ils rencontrent parfois certaines résistances. C'est le cas du grand quotidien La Voix du Nord, qui est largement obstrué dans son activité par la mairie Rassemblement National d'Hénin-Beaumont. La technique de la municipalité, le droit de réponse publié dans les colonnes du journal quand un article ne lui plaît pas. Un outil essentiel, le droit de réponse dans le droit de la presse, mais très ou trop largement utilisé par cette mairie, semble-t-il. La semaine dernière, le Journal du Nord publiait le 100e droit de réponse dans ses colonnes en seulement 7 ans. Bonjour Gabriel Darcourt.
Bonjour.
Vous êtes directeur général délégué. Ce qui nous intéresse encore davantage ici, c'est directeur de la publication de La Voix du Nord. Vous vous occupez du contenu. Votre boîte aux lettres est donc bien remplie ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs et auditrices ce qu'est un droit de réponse en presse écrite techniquement ?
Le droit de réponse, c'est le droit pour chacun, à partir du moment où il est cité dans un article de presse, de pouvoir faire publier un texte de même taille que le texte dans lequel il était cité, pour répondre éventuellement sur ce qui a été dit sur lui.
Quelles sont les règles pour pouvoir être publié ? Est-ce qu'il faut que ce qui a été écrit soit manifestement faux, ou pas du tout, ou pas seulement ?
C'est compliqué parce que chacun a droit à ce droit de réponse à partir du moment où il est cité dans l'article, et alors il peut donner une version des faits qui est la sienne, qui peut être différente de celle qui était donnée par le journal et différente de la réalité, mais il peut la donner. Alors ensuite, le journal peut à son tour, ça nous arrive, faire une note de la rédaction, c'est-à-dire corriger un peu les faits s'ils ne sont pas vrais dans le droit de réponse. Mais là, la personne concernée peut à nouveau faire publier un droit de réponse.
Un journal a-t-il le droit de ne pas publier un droit de réponse ?
Non, le journal doit publier le droit de réponse. Il doit le faire dans les 3 jours même. Sur les 100 droits de réponse qu'on a reçus ces 6 dernières années, une fois, il est arrivé qu'on n'en a pas passé un. Parce que c'était tout simplement une question d'organisation et de personnes qui était absente ce jour-là, et ils nous ont attaqué au tribunal et ils ont gagné.
Vous avez reçu la semaine dernière votre 100e droit de réponse en provenance de la mairie Rassemblement National d'Hénin-Beaumont. De quoi s'agissait-il ? Le dernier.
Ah, ça, c'est une colle.
Parce que vous avez un dossier énorme. Alors,
j'ai
je dois
pas
préciser,
les 100 en tête.
Gérard Darcourt Gabriel Darcourt est arrivé avec un dossier, il m'a dit, est-ce que je peux poser ce dossier ? Il doit y avoir 2 kilos de lettres.
Ouais, il finit par être épais. Hein. Le dossier Rassemblement National d'Hénin-Beaumont, il est épais. Il est constitué notamment de ces 100 droits de réponse. Donc, j'ai pas le dernier à l'esprit.
Oublions le dernier. En général, ils sont de quelle nature ?
Je peux vous en... ils sont tout à fait dérisoires, quoi. C'est-à-dire que on est passé dans une espèce de petit jeu de la part de la mairie d'Hénin-Beaumont et notamment de Bruno Bilde, hein, qui est député de la République et qui veut, je pense, nous empêcher de faire notre métier. Il fait partie de ces gens...
Mais attendez, pour qu'on comprenne bien, ouais. Qu'est-ce qu'on vous reproche d'avoir écrit ?
C'est compliqué à dire. Je pense que dès le
début...
Prenez
un exemple pour qu'on comprenne. Parce que les gens qui nous écoutent se disent « Ah oui, mais peut-être que c'est fondé. Si on écrit quelque chose de faux sur vous, sur moi, on va protester et on aura raison. »
Je vais vous donner un exemple. Le curé d'Hénin-Beaumont, quand il est parti il y a 2-3 ans, a dit... on l'a interviewé dans nos colonnes et il a dit « Moi, j'ai passé un merveilleux moment à Hénin-Beaumont. Je suis muté dans une autre commune. » Je regrette très juste de ne pas avoir eu les relations que j'aurais aimé avoir avec la municipalité. Là, ça donne la possibilité à la municipalité de réagir, qui a fait un communiqué en disant les relations étaient parfaites avec M. le curé. Et d'ailleurs, à telle date, M. le maire l'avait convié à prendre un café à la mairie. Bon, c'est parfaitement dérisoire. Et si prendre un café en 5 ans de présence du curé, c'est montrer qu'on a de bonnes relations avec lui. Ça rime pas à grand chose. Mais c'est cette volonté de nous empêcher de faire notre métier localement qui est préoccupante.
Qui en général vous envoie ces droits de réponse ? Est-ce que c'est le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, ou un adjoint, ou plusieurs personnes différentes suivant les cas ?
Dans 90% des cas, c'est le maire, Steve Briouat. Il peut arriver que ce soit Bruno Bilde. Marine Le Pen en a envoyé aussi à une époque, ou Christopher Zurek également. Mais la plupart du temps, ils sont envoyés par Steve Briouat, mais d'après ce que j'ai compris, ils sont préparés par Bruno Bilde, qui est le adjoint au maire et spécialiste des droits de réponse.
Alors évidemment, nous avons joint le conseil municipal d'Hénin-Beaumont et son premier adjoint RN, il s'appelle Christopher Zurek. Il a accepté de répondre à nos questions. D'abord, nous lui avons demandé comment il qualifiait les relations de la mairie d'Hénin-Beaumont avec votre journal La Voix du Nord.
Elles sont fatalement tendues, mais j'allais dire, c'est comme on le déplore, c'est pas de notre fait. Nous, on ne demanderait pas mieux que d'avoir des relations normales avec la Voix du Nord, mais depuis longtemps, la balle est dans leur camp. Ils s'y refusent manifestement. Donc, bah, par définition, j'allais dire que nous, dans la mesure où on s'estime attaqué, on réplique, on répond et on se défend. Mais dès le début de notre arrivée en Méridien-Beaumont, on a senti un traitement différencié par rapport à d'autres villes du secteur, c'est-à-dire à la fois en termes de couverture et en termes de traitement, avec des articles qui sont beaucoup plus amélioratifs quand il s'agit d'autres villes et qui sont beaucoup plus critiques quand il s'agit d'Hénin-Beaumont. On sent une volonté générale de faire le buzz ou de ne s'attacher qu'à des choses polémiques à Hénin-Beaumont, à des choses qui seraient négatives.
Gabriel Darcourt, que lui répondez-vous ?
Alors, ce n'est pas évident de répondre sur le fond, parce que, bien entendu, je suis en désaccord complet avec ce qu'il dit, mais la seule chose que je peux dire...
Est-ce que vous parlez des mauvaises choses que lorsqu'est ou spécifiquement non, lorsque ça se passe à Hénin-Beaumont ?
La seule chose que je peux dire, c'est que ça fait 80 ans que La Voix du Nord, qui est un des plus grands journaux régionaux français, fait son travail sérieux et rigueur, et il le fait aussi bien à Hénin-Beaumont qu'ailleurs.
Il y a 80 ans, pardon de prendre la défense du Front National, mais ce parti n'existait pas. Est-ce que vous parlez aussi bien des choses qui ne vont pas, que ce soit une mairie socialiste,
bien
une
sûr.
Mairie LR,
mais
une mairie sûr. Rassemblement National ?
Évidemment. Et nos relations ne sont pas au beau fixe avec toutes les municipalités, loin s'en faut. Mais en revanche, c'est le seul cas là où nous sommes victimes de cette accumulation de droits de réponse qui est d'une chose. Mais ce dont il faut parler aussi, c'est les SMS quotidiens, les mails, bref, une forme de harcèlement et d'intimidation menée au quotidien face à des journalistes qui sont dans la commune, qui vivent dans la commune et qui se font invectiver soit de façon privée, soit en public au conseil municipal.
Pour qu'on comprenne bien, une des origines des tensions avec le Rassemblement National, c'était bien avant, on était en 2015, ce parti s'appelait le Front National. Et vous posiez cette question, ou plutôt il y avait, votre journal avait publié ceci en une ou en gros caractère, pourquoi une victoire du FN nous inquiète ? Quel était le contenu du dossier qui correspondait à cette une ?
On était dans un contexte très particulier, c'est-à-dire qu'on était au moment des élections régionales de 2015, et tous les sondages donnaient Marine Le Pen, qui était candidate dans la région, vainqueur. Mm. Et quelques jours avant l'élection, nous avons décidé de nous engager et de dire en quoi cette élection serait, de notre point de vue, défavorable au territoire et à son développement. Notre positionnement, notre mission à nous, c'est d'être le journal de la région et de ses habitants. Et on a considéré à cette époque-là que cette élection ne serait pas favorable à la région, à ses habitants. Et donc, avait fait une et un dossier là-dessus.
Je rappelle qu'on est en 2015. À l'époque, Marine Le Pen, vous avez répondu dans les médias, notamment sur BFM TV.
Personne n'a jamais fait cela en pleine campagne régionale, deux numéros de suite, sans me donner la parole, avec des arguments dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont indigents, mais qui démontrent une vision partisane. C'est un véritable tract du Parti Socialiste.
Sans dire que vous êtes un tract du PS, vous êtes engagé en faisant C1, vous avez fait preuve de militantisme.
Alors non, on s'est engagé, oui, on n'a pas fait preuve de militantisme. Notre seul militantisme, c'est celui du territoire. Il n'y a pas de militantisme politique. Il se trouve que là, dans ce contexte très particulier, encore une fois, à la veille d'une élection, elle était donnée favorite, on a décidé, oui, de s'engager, de prendre la parole. On n'est pas un journal d'opinion, mais on peut avoir une opinion. Et on considère, moi j'y suis très attaché, qu'un journal, un média régional n'est pas uniquement spectateur de ce qui se passe, il n'est pas là uniquement pour raconter, il doit le faire, mais il doit être acteur de sa région aussi, et parfois il doit s'engager.
On était en 2015, et puis il y a des gens qui vous achètent et qui votent peut-être Rassemblement National, vous pouvez aussi penser à vos électeurs qui sont aussi
bien
des
sûr.
Acheteurs.
Bien sûr.
Sujet très complexe, on est avec Gabriel Darcourt, directeur de la publication de La Voix du Nord, Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Gabriel Darcourt, directeur de la publication de La Voix du Nord, son journal qui a reçu déjà une centaine de droits de réponse, pour dire le chiffre, 100 en 7 ans de la part du Front National devenu Rassemblement National. Difficulté pour vous, pour vos journalistes, de travailler sur place. Vous parliez du moment où vous étiez engagé, où votre journal s'était engagé dans la campagne. Le Rassemblement National n'a pas oublié ses unes, puisqu'on arrive aujourd'hui à ses 100 droits de réponse. On a également interrogé Christopher Surek, le premier adjoint Rassemblement National d'Hénin-Beaumont, sur la quantité, sur ce chiffre même de droits de réponse adressés à votre journal. Et pour lui, ce n'est pas excessif.
Tout ça, c'est réparti sur 7 ans. Si on divise ça par 7, on est à une petite quinzaine de droits de réponse par an, ce qui évidemment est plus que dans d'autres communes, je le conçois encore une fois, mais est-ce que toutes les communes sont attaquées de la même manière ou font l'objet d'un traitement similaire? Je crois pas. 15 droits de réponse par an, moi ça me semble encore relativement correct et équilibré. Et encore une fois, si la Voix du Nord nous traitait comme les autres, on utiliserait beaucoup moins de ce droit.
Que lui répondez-vous ?
Bah déjà qu'on se demande un peu où est la conception de la liberté de la presse dans des propos comme cela, et puis ensuite considérer que sans droit de réponse, c'est pas beaucoup. Honnêtement, je ne pense pas prendre tellement de risques en disant que c'est le record du monde des droits de réponse. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la presse, j'ai jamais entendu parler de ça. Aucun confrère n'a jamais eu affaire à ça. Donc, encore une fois, rajouter aux 100 droits de réponse les SMS, les mails, les pressions quotidiennes et dans des termes qui sont grossiers, qui sont vachards, c'est plutôt du harcèlement, quoi.
Puisque vous en parlez, on va y venir. Comment se passe le travail de vos journalistes sur le terrain ?
À Hénin Beaumont, ouais. Précisément.
Dans la revue des médias, le journaliste Mathieu Deslandres raconte que vos journalistes seraient harcelés sur leurs différentes messageries, notamment par le député RN Bruno Bilde, qui est le président de la majorité au conseil municipal d'Hénin Beaumont. Est-ce que vous confirmez ?
Oui, bien sûr, j'en ai moi-même. Là, je peux vous donner des exemples. Il nous écrit à tour de rôle au petit matin quand il n'est pas content avec ce qu'on a écrit. Pour moi, ce n'est pas très grave, parce que je suis un peu éloigné du secteur. Mais imaginez ce que c'est pour les journalistes qui vivent sur place, qui travaillent sur place.
Oui, parce qu'il faut expliquer, ils
habitent
là-bas.
Des gens. Et voilà. Et quand le maire, Steve Briouat, reprend des tribunes accusant la Voix du Nord sur sa page Facebook, c'est une chose. Mais quand il laisse sur sa page Facebook les commentaires, vous imaginez, vous connaissez les réseaux sociaux, les commentaires qu'il peut y avoir. Mais non, il n'y a aucune modération. Il n'y a de modération que au moment où on dit « attention, on va faire un constat d'huissier ». Et là, hop, tout disparaît. Mais sinon, on se fait traiter. Je vais vous dire, dans mon petit dossier, mon gros dossier, il y a les termes qui sont employés à notre égard. Je ne peux pas les prononcer
sur l'antenne.
Dites-le,
on est une émission média. Sinon, si on ne comprend pas, si on n'a pas les termes, on ne va pas comprendre.
Je ne sais pas. Sale pourri, bande de salopes... Voilà, Jean de Bourreau, il y en a
c'est
plein.
Bon, on a compris.
Tôt, mais
on a compris. Est-ce que vous avez tenté une médiation ou plusieurs avec la mairie d'Hénin Beaumont et qu'est-ce que cela a donné si la réponse est oui ?
Moi, j'ai comme principe, vous savez, les relations parfois conflictuelles avec les politiques locaux, on connaît et tous nos confrères de PQR connaissent. Donc, on sait gérer cela. Moi, j'ai pour principe de toujours rencontrer les gens, écouter les problèmes et essayer de les résoudre. Je le fais avec toutes les personnalités
et
politiques de la région. En l'occurrence, c'est arrivé à Hénin Beaumont et je me suis rendu à la mairie d'Hénin Beaumont il y a 4 ou 5 ans. Il y avait Bruno Bilde et Christopher Zurek. Bah, très franchement, ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure.
Qu'est-ce que vous avez dit ?
J'allais dire échanger un peu, mais ça a été très bref. Et si vous voulez, moi, je n'avais pas quoi que ce soit à corriger des contenus de la Voix du Nord parce que je considère qu'ils étaient tout à fait journalistiques et conformes à ce qu'on fait partout ailleurs.
Alors nous, on a joint quand même Christopher Surek qui dit qu'il vous a vu, Gabriel Darcourt, et on lui a posé la question, nous dit-il, du pluralisme désigné dans la Voix du Nord. Il vous a demandé de mettre des éditorialistes d'opinions différentes et selon lui, il nous a dit, donc vous lui avez dit clairement que vous ne donneriez pas la parole à un éditorialiste qui ne serait pas dans la ligne de la Voix du Nord.
Oui, je ne sais pas trop quoi...
est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ?
Quoi répondre à ça ? On a pour habitude, dans la Voix du Nord, de faire un métier de journaliste, c'est-à-dire, comme vous le faites là, de mettre à plat le sujet, de confronter les avis, d'exposer les situations, et comme ça donne tous les éléments au lecteur pour se prononcer. Et on le fait pour les uns, pour les autres, on l'a fait pour le Rassemblement National et pour les listes, y compris celle de Steve Briouat et Hénin Beaumont. On lui a donné la parole sur une double page, pour présenter sa liste et son projet, ni plus ni moins que pour les autres.
Les médias, c'est également une économie, je vous apprends rien. Steve Briouat a été réélu à près de 74,21%, ce qui est considérable. Ses électeurs, ce sont aussi des lecteurs, ce sont aussi des acheteurs. Est-ce que les ventes de la Voix du Nord ont baissé à Hénin Beaumont ?
Elles évoluent de façon similaire à ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire qu'on a une érosion des ventes papier.
Bien sûr.
C'est un... c'est commun à l'ensemble de la presse en ce moment, et c'est en progression et en forte progression sur le digital.
D'accord.
Donc si vous voulez, au global...
Est-ce que vous avez l'impression que les habitants d'Hénin Beaumont se détournent de votre quotidien?
Ah non, pas du tout. Non. C'est le rêve de Bruno Bilde, mais ce n'est pas du tout la réalité. On a une audience digitale qui progresse fortement à Hénin Beaumont.
Question d'actualité, parce que c'est le sujet en ce moment. Le journal Ouest France, je vous apprends rien, a déclaré ce week-end qu'il ne publiera plus de sondages pendant la campagne présidentielle. Quelle est votre position à la Voix du Nord?
Nous n'avons pas pris cette position-là. Je pense que nous allons continuer à faire des sondages. Après, il ne faut pas en faire sur tout et n'importe quoi, ni sur tout et n'importe qui. Je pense que plus que jamais, il faut faire preuve de recul, de discernement. Mais les sondages peuvent, de temps à autre, donner un éclairage intéressant sur la campagne. Donc, nous continuerons à en faire.
Merci beaucoup, Gabriel Darcourt, directeur de publication de La Voix du Nord. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci à vous.
Dans un instant, l'animatrice Faustine Bollard, on va parler de ses nombreuses activités. Il faut que je prenne mon souffle là aussi. Elle publie un magazine bimestriel, s'appelle Entre nous. Elle a un rendez-vous quotidien sur France 2, une autre émission et deux projets sur France Télévisions. Rien que ça, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Faustine Bollard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous vous présentez tous les jours depuis 4 saisons sur France 2, une émission de témoignages, ça commence aujourd'hui. Et aussi des prime time comme La Boîte à Secrets. Vous avez deux gros projets qui vont arriver sur la 2 et sur la 3, on va en reparler. Mais votre actualité, c'est du papier, un magazine en kiosque, ça s'appelle Entre nous. C'est le numéro 3 qui vient de sortir, ça vaut 4,90€. D'un mot, c'est quoi l'idée de ce magazine? Est-ce que c'est une déclinaison de votre émission?
On est quand même dans la continuité, c'est aussi pour ça que j'ai accepté et qu'on travaille comme ça. C'est que y a le fil rouge, c'est vraiment l'humain. Et en effet, on retrouve quand même l'aspect extrêmement positif de mon émission de l'après-midi. On retrouve l'émotion, on retrouve l'écoute et surtout, on retrouve le non-jugement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour moi. On s'ouvre à toutes les nuances de la vie, y compris voilà, l'après-midi. Et on retrouve ça dans ce magazine. Ce sont des témoignages extrêmement forts qui nous font réfléchir, avancer et de façon toujours extrêmement positive.
Entre nous, le nous, ce sont les femmes.
Non, pas du tout. Non, je pense qu'il y a aussi des témoignages d'hommes et je pense que tout le monde peut y trouver, y compris l'après-midi sur France 2 et dans ce magazine, il y a également des témoignages masculins sans aucun problème. Aujourd'hui, les hommes parlent, Philippe, de plus en plus, ils se confient de plus en plus.
Si je regarde la double page de sommaire de ce numéro, il n'y a aucun homme en photo, je
en
vous
photo,
le reproche pas.
Non.
Il n'y a
en
que des
photo,
femmes.
Non. En l'occurrence, oui, mais ça, c'est un hasard. Franchement, c'est un hasard, c'est pas fait pour.
Voilà, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. Vous êtes occupée même de la maquette, si j'ai bien suivi. Vous avez démarré dans la presse écrite, Faustine Bollard.
Exactement, c'est pour ça que c'était un vrai plaisir quand Benjamin Dargent, qui est un ami, est venu me proposer ça. J'étais non seulement heureuse de le retrouver, lui, et aussi de repartir dans ce monde de la presse écrite dans lequel j'ai commencé il y a 20 ans. Et c'est vrai que je suis un peu jusque-boutiste, c'est-à-dire que j'avais pas du tout envie de mettre mon nom ou mon image à un magazine sans que je m'y retrouve. Et c'est vrai que des couleurs, des couvertures à la maquette, j'ai vraiment voulu m'impliquer, même s'il y a une formidable équipe derrière. Mais c'est vrai que je voulais avoir un regard sur tout.
Il y a quelque chose qui m'a frappé quand on le voit en kiosque, parce que moi, je viens de la presse écrite, je fais très attention à ça. Quand il y a un magazine dessous, Entre nous, le titre, si on remonte, on voit écrit « ventre ».
Ah, ça nous va très bien, je trouve.
Ben voilà,
on est dans le ventre.
Je me suis dit, c'est
un magazine qui prend aux tripes.
C'est l'inconscient qui parle.
Et qui vérifie ce qui va dans le ventre.
Et quand vous me dites qu'il ne s'adresse pas aux garçons, pardon de vous dire ça, mais quand même, votre édito, il commence
ainsi. On parlait
ainsi,
d'Octobre Rose.
Ça démarre comme ça. Première phrase, lectrice au pluriel, lectrice, je vous en prie, touchons-nous les seins. Vous adressez
alors,
aux femmes.
Ben on peut s'adresser aux hommes parce qu'il y a des hommes qui font de l'autopalpation, enfin qui font de la palpation sur leurs femmes. Oui,
alors
c'est vrai.
On va raconter. C'est un magazine de témoignages. C'est surtout ça la base de ce magazine.
D'expérience de vie, voilà, de partage d'expérience de vie. C'est vraiment ça.
Et il y a des témoignages vraiment très très rares. Par exemple, il y a Marie qui se bat pour faire comprendre, je cite, la difficulté du quotidien de nos héros policiers. Je vais lire le chapeau, c'est-à-dire le début de l'article, entre le titre et l'article. On appelle ça le chapeau. En rencontrant l'amour, écrivez-vous, Marie a épousé à cause d'une profession mal considérée, elle a découvert le rôle d'une femme de flic. Mais ce que dit pas cette phrase, c'est qu'elle est en couple non pas avec un policier, mais avec une
Mélanie,
policière.
Avec Mélanie. Ouais.
Et elle pose avec visage découvert, comment obtenez-vous ce genre de... C'est presque un tour de force d'avoir cette confiance.
C'est exactement ça, la confiance. Mais je pense que c'est aussi la confiance que font nos lecteurs. Ils ont compris aujourd'hui, au bout de 3 ou 4 numéros, à quel point nous sommes dans, justement dans le non-jugement et qu'on peut aller sur ce type de sujet sans que ça soit ni voyeur, ni putassier. Et c'est vraiment le cas de Marie qui nous parle de son histoire d'amour, mais qui nous parle également de la façon dont elle a découvert le métier de policier, le rapport quotidien avec la mort, son angoisse de voir sa douce partir le matin, son besoin d'être assuré en permanence. Donc, en effet, on parle sans tabou et de ces couples féminins et de cette cause policière.
J'ai bien compris. Ma question en tant que journaliste, c'est comment arrivez-vous à les convaincre ? On sait à quel point il est très, très, très difficile de faire parler des témoins. Il y a en France, on l'a vu encore dans l'actualité récente, une vague d'homophobie. Il y a aussi une vague, c'est peu dire que les policiers ont mauvaise presse. C'est vraiment, je suis obligé de dire,
non,
de faire
vrai.
Ce compliment. Comment obtenez-vous la confiance des gens ?
C'est des enquêtes.
C'est parce qu'ils vous ont vu à la télévision ?
C'est
parce qu'ils vous connaissent ?
Clairement, aujourd'hui, j'ai de la chance de pouvoir avoir tissé un lien de confiance avec le public, que ce soit des lecteurs ou des téléspectateurs. Donc, en effet, aujourd'hui, quand ils savent que c'est moi... c'est très humble ce que je dis, mais ils savent qu'en effet, ça ne sera pas vulgaire, putassier ou voyeur. Ça, c'est évident. Et après, il y a une enquête des journalistes. On va rencontrer des gens, on leur explique notre projet et ils décident de se livrer parce qu'ils ont aussi une cause à porter, des valeurs à défendre et c'est pour ça qu'ils acceptent. Il y a toujours un message derrière et nous, on se fait porteur de ce message.
Autre témoignage qui m'a vraiment frappé parce qu'on la voit, Émilie, je suis une sugar baby et j'en ai pas honte. C'est une étudiante bordelaise qui parle et qui assume le fait d'être une sugar baby. D'abord, c'est quoi pour ceux qui ne connaîtraient pas une sugar baby ?
Une sugar baby, c'est une jeune femme aujourd'hui qui décide d'accepter, on va dire, d'avoir un mécène plus âgé, on va dire, qui aime les hommes un peu plus âgés et qui accepte de se faire, c'est pas sexuel, mais qui accepte de se faire, on va dire, épauler dans la vie. Ouais. J'ai du mal à formuler parce que j'ai peur que tout soit mal
sûr.
Compris.
Un mécène, comme joliment, ces choses-là sont dites.
Non, mais on parle pas de sexualité, non, sugar baby, si.
Et j'ai bien compris. Mais quand moi, je voyais un sujet à la télévision, il y en a déjà eu sur les sugar baby, les personnes étaient floutées. Or là, elle a visage découvert. Je vous retourne le compliment de tout à l'heure. Comment faites-vous pour que cette personne parle à visage découvert ? Est-ce que vous l'avez rencontrée elle-même ? Est-ce qu'elle est venue dans
Alors,
votre émission ?
Moi, je ne l'ai pas rencontrée, mais j'ai déjà reçu des sugar baby dans mon émission. Et en effet, ils parlent à visage découvert parce qu'ils ont envie qu'on comprenne l'acceptation. Ils veulent l'acceptation de leur situation. Ils veulent de la tolérance. Et du regard. Après, dans ce cas-là précis, on ne parle pas de sexualité. On parle d'une personne, en effet, qui accepte d'être épaulée par quelqu'un de plus âgé. Donc peut-être que le mot ne convient pas forcément.
Et vous savez quoi ? Nous, on n'en a pas encore parlé d'argent. Et pourtant, c'est important. Les médias, c'est aussi une économie. Mmh. On en parle avec vous, Faustine Bollaert. Entre nous, ce nouveau magazine et puis d'autres choses en télévision. Culture Média continue.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Faustine Bollaert, animatrice sur France Télévisions, mais également patronne de journal désormais, il y a ce magazine en kiosque entre nous, c'est le numéro 3 qui est sorti, il couvre octobre-novembre, c'est un numéro tous les deux mois. Vous pratiquez tout ce qui est noté dans le magazine ou pas du tout ?
C'est-à-dire ?
Je sais pas, vous exemple, se remettre au sport.
Ah oui, je vous remercie.
Manger léger.
c'est une remarque.
C'est dans votre journal. Ou, je veux dire pourquoi je pose ça. Ou ne plus porter de soutif.
Ah oui, en effet, ça c'est une jeune femme.
Voilà.
C'est une recommandation. C'est une jeune femme qui a écrit un livre, en effet, qui revendique de ne plus porter de soutien-gorge et que c'est un ode un peu à la liberté, mais tout ça n'est qu'un symbole. Mais en effet, écoutez, là j'en porte un, si ça vous intéresse.
Ça ne m'intéressait pas. C'était juste pour savoir si vous étiez en ligne droite de votre magazine. Magazine lancé par eWorld Media. Ce sont eux qui sont venus vous chercher. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui à ce projet, à part l'argent évidemment ?
La continuité, non, c'est pas ça mon premier moteur dans ce que je fais, mais c'est la continuité avec la proximité que j'essaie d'installer aujourd'hui et que j'ai la chance de pouvoir avoir créé avec le public. C'était une autre manière de communiquer avec le public, de se livrer plus. Et puis comme je vous le disais, c'est aussi un exercice de la presse écrite. J'avais très envie de... Là, j'écris dans ce magazine, j'écris l'édito, fais des interviews.
Il y a l'interview d'Amel Bent.
Exactement, l'interview d'Amel Bent. Je les écris moi-même, je reprends un grand plaisir à décrypter les interviews comme au tout début de ma carrière, entre guillemets. Et donc tout ça est absolument savoureux. C'est aussi une joie intellectuelle et un plaisir intellectuel de se replonger dans ce milieu-là.
Est-ce que vous connaissez les chiffres de vente ? Est-ce que vous y êtes intéressée ?
Oui, on m'a dit au départ quelles étaient l'ambition, mais je n'ai pas envie d'aller là-dedans parce qu'en fait, je n'y connais pas grand-chose. On a tendance à me dire ça marche, c'est un bon démarrage, c'était un très bon premier numéro. Pour l'instant, en tout cas, je sais qu'ils sont contents. Donc c'est largement ce qui m'intéresse.
Alors, il y a beaucoup de magazines désormais construits autour d'une personnalité. Yes, comme Sophie avec Sophie d'avant, le magazine de Michel Simès qui parle de santé, celui de Stéphane Plaza qui parle d'immobilier, celui de Stéphane Bern qui parle évidemment d'histoire et bientôt celui de Laurent Mariotte qui va parler de cuisine. On va recevoir justement l'ami Laurent pour en parler. Question médias et question marketing, on comprend qu'une tête connue est plus facile pour obtenir des ventes en kiosque. Est-ce qu'inversement, le magazine papier vous a ramené des téléspectateurs et des téléspectatrices ?
Ah, je ne me suis absolument pas posé la question dans ce sens-là. Alors en l'occurrence, ça commence aujourd'hui cartonne, donc je ne sais pas s'il y a un lien. Après, ça commence aujourd'hui, cartonnait avant la sortie du magazine. On n'en est qu'à trois numéros, donc je ne suis pas sûre que dans ce sens-là, les choses ont changé.
Un mot de Sophie Sophie d'avant. Vous voulez d'abord piquer sa case. Ça commence aujourd'hui.
Non, j'ai pas du tout piqué la case de Sophie d'avant, puisqu'il y a eu Frédéric Lopez.
Vous avez raison, mais ça occupait la case de l'ancienne émission Toute une histoire. Vous voulez aussi piquer son idée de magazine Feel Good pour les femmes. Est-ce que vous voulez passer un coup de fil pour la prévenir?
Non, pas du tout, mais on s'entend très bien en fait avec Sophie, donc je vais pas l'appeler. Je vais dire encore une fois, est-ce que Michel Simès a appelé Sophie d'avant au moment où il a fait un magazine? Est-ce que Plaza l'a fait aussi? Non, en effet, il y a eu beaucoup de communication au moment de sortir son magazine. Il y en a aussi à la sortie du mien. C'est juste une nouvelle économie de la presse et c'est tout. Mais personne n'a piqué l'idée de personne.
Télévision, vous l'avez dit, ça commence aujourd'hui, ça cartonne. Vous avez les chiffres en tête, moi je les ai.
Bah hier, écoutez, on a fait 20,9, presque 21 sur les ménagères. On a fait près de 15% de part de marché sur les individus. En tout cas, ça marche de plus en plus. Les gens viennent nous retrouver. On peut se permettre un éventail de sujets de plus en plus large. Donc c'est savoureux et c'est un vrai kiff.
Alors, l'éventail large, c'est exactement le cas. Vous faites face parfois à des témoignages atroces. Le thème de l'émission vendredi dernier, c'était « Un homme d'église a brisé leur enfance ». Et vous demandez justement à votre invitée, elle s'appelle Nanou, elle a 65 ans, à quoi ressemblait la sienne d'enfance?
Un enfer. Un enfer sur terre, parce que il y avait pas d'amour, il y avait pas de tendresse, il y avait que des viols avec des personnages qu'on appelle curés, qui auraient dû être là pour nous protéger ou me protéger, mais il s'est rien passé. Non, c'était vraiment une vie d'enfer. Ouais.
Vous habitiez avec vos parents?
Non, je n'ai pas eu mes parents. Ma mère m'a abandonnée et mon père était en prison. Et j'ai été placée dans une pouponnière jusqu'à 18 mois. Oui. Et c'est la grand-mère paternelle qui est venue me récupérer.
Et, elle vous ne dites pas ma grand-mère, vous dites la grand-mère.
La grand-mère, je ne peux pas dire ma. Et encore, je suis gentille, d'habitude c'est la vieille. Mais pour que les gens puissent comprendre, c'est la grand-mère paternelle.
Nanou a été violée par trois prêtres de ses 3 ans à ses 13 ans. Comment peut-on résister à de tels témoignages?
Dignité, il suffit de regarder le sourire de Nanou, sa luminosité. Elle-même vient pour transmettre un message de résilience absolue. Donc de quel droit, moi, je m'écroulerais alors qu'elle, après avoir vécu un tel enfer, vient sur le plateau pour délivrer encore une fois un message d'espoir extrêmement fort. Moi, j'essaie juste d'être à la hauteur des gens que je reçois. Donc encore une fois, ce sont eux qui souffrent. Moi, je ne suis là que pour les mettre en exergue.
En entendant ça, j'ai la gorge complètement serrée. Et j'ose même pas poser de questions.
Évidemment. Et je peux même vous dire dans le détail que Nanou, nous sommes en direct. Il est 14h, je connais moi énormément de détails de ce qu'elle a vécu et j'essaie de ne pas aller sur ces détails, déjà parce qu'il est 14h et parce que moi-même ça serait assez difficilement soutenable. Je peux dire que juste avant, dans ma loge, quand je me remettais en tête ce témoignage, je tremblais moi-même et je me disais que c'était insupportable.
Alors parfois l'émission est beaucoup plus légère.
Mais c'est extrêmement utile.
Vous l'avez dit, on va entendre un extrait de l'émission de jeudi dernier, ça avait pour thème « Ma mère et ses amours ». Alors je raconte l'histoire, c'est Rita. Après sa séparation, elle a une nouvelle jeunesse et la première confidence de la maman Rita, c'est sa fille Alexia, au point de la mettre parfois dans des situations délicates, comme par exemple, elles sont toutes les deux sur votre plateau, lors d'un achat particulier, c'était une surprise, sur les conseils de l'ami, le nouveau petit ami de la maman.
Et donc je suis arrivée dans ce magasin et j'étais super embarrassée. Je leur demande où se trouve le rayon cravache.
T'as
oui, j'avais mon chihuahua avec moi. Donc...
Le rayon cravache, j'adore.
Et donc je suis arrivée et donc la madame qui me regarde et je précise, non mais je vous rassure, c'est pas pour moi, c'est pour ma maman. Je pense que...
Ce qui est encore pire.
C'est pire. Et donc voilà, je me suis arrivée chez elle. Et bon, je monte et je dis à ma maman, je fais viens ici. Et donc je lui déballe la cravache et elle me fait, oh, pas où, parce qu'elle s'y attendait pas finalement. C'était
bah,
son
ouais.
ami qui m'avait appelée. Et je fais, écoute maman, je t'aime beaucoup. On partage énormément de choses, toi et moi. Mais il y a des choses que je ne veux pas savoir. Et je dis, écoute, fais-en bon usage, mais je ne veux pas les détails.
C'est dommage, parce que moi, j'aurais bien aimé vous les demander, mais ça marche une cravache?
Oui, ça va, c'est très très bien. Et je remercie ma copine.
J'aime bien le cri du cœur. Oui, c'était super. C'est super, c'est très très bien.
Et tout ça en bonne humeur, à visage découvert.
Mais oui, mais j'adore justement parce que c'est tout le charme de cette émission. On est capable de parler de relations amoureuses le lundi, de drames le mardi, de sujets sociétaux le mercredi. Et c'est ça qui fait que ça marche en fait.
Et je vous interromps parce que nous aussi, on est en direct. Deux projets qui vont arriver sur France 2, sur France 3. D'abord, les temps changent sur France 2, que France 2 annonce. 90 minutes en prime time, sera quoi?
Et une émission en direct le 16 novembre. En fait, c'est un doc où on va parler d'un fait d'actualité à travers des témoignages depuis 50 ans. Pour le premier épisode, on parle de pédocriminalité, justement.
ans. Donc on commencera dans les années 70 avec le témoignage d'Eva Thomas qui parle d'inceste pour la première fois, jusqu'à MeToo Inceste aujourd'hui, des scandales dans l'église et tout ce qu'on peut découvrir encore aujourd'hui. Mais à travers des témoignages, et on retrouvera le ton de Ça commence aujourd'hui, à travers, il y a de l'émotion, il y a de l'écoute, il y a des frissons et une émission en direct après.
On n'a pas le temps d'en parler, mais je le cite quand même. Prodige, c'est vous qui prenez la tête de cette émission. Vous succédez à Marianne James, Daphné Burki et surtout Marie-Sophie Lacaro, qui est passée sur TF1 pour présenter le 13h. Donc elle ne pouvait plus présenter Prodige. Ce sera vous, du coup, l'occasion de vous inviter à nouveau. Merci beaucoup,
merci
Faustine Bollard, d'avoir été avec nous. Je rappelle ce magazine en kiosque, ça s'appelle Vivre Ensemble. Et puis en télévision, Ça commence aujourd'hui. Ce sera tout à l'heure, du lundi au vendredi, à 13h55. Et c'est déjà la quatrième saison.
Exactement.
Et ça marche très bien. Merci à vous.
Merci Philippe, merci beaucoup.
Culture Média continue après le rappel des titres de 10h, j'y arrive. Moi aussi, je vais me dépêcher, il ne faut jamais faire ça. Vous retrouverez les télescopages de Bruno Nonnet qui a regardé tous les JT d'hier et qui n'a pas compris s'il était riche ou pauvre. Et puis notre invité, c'est une icône, la chanteuse Sylvie Vartan, à l'occasion de son nouvel album Merci pour le regard et sa tournée. En fin d'émission, Marc-Antoine Lebray, à tout de suite sur Europe 1.